l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Il fait chaud, très chaud, même sur une grande partie de l'Europe. Une chaleur extrême qui envahit bien précocement l'ensemble du continent. Des pointes à plus de 40 degrés frappent l'Espagne, l'Italie, la France. Mais le mercure flirte avec ce seuil en Allemagne, en Autriche et même dans le sud de la Scandinavie. L'alerte canicule a été déclarée sur une grande partie de la France, y compris dans le nord. Le département, plutôt connu pour sa pluviométrie, est en alerte sécheresse depuis le mois d'avril. Jamais en 30 ans, un arrêté avait été pris aussi tôt dans l'année. Les nappes phréatiques sont très basses à cause de 3 hivers consécutifs très secs. Et ce sont les agriculteurs nordistes qui en pâtissent le plus, Lise Verbeek.
Alain de Kecker est agriculteur depuis 40 ans à Avesnes-le-Sec, un village proche de Valenciennes. Il cultive des céréales, des betteraves, des légumes, mais aussi et surtout une centaine d'hectares de pommes de terre.
Alors ici, j'ai une parcelle de 20 hectares qui est destinée à être irriguée. Donc ça, ici, c'est des pommes de terre, ce sont des innovateurs. C'est des pommes de terre qui sont destinées à être transformées en frites pour McDo. Là, on va essayer de... Normalement, il doit y avoir une pomme de terre qui doit être en train de germer quelque part. Ah ben voilà, là on a une pomme de terre, un plant, là c'est un germe, il va bientôt sortir de terre. La plante n'est pas encore levée. Une fois qu'elles sont levées, jusque la mi-août, on va aller sur des besoins en eau qui vont être grandissants et qui peuvent être certaines journées jusqu'à 6 à 8 litres au mètre carré.
L'arrêté sécheresse interdit à Alain d'irriguer entre 11h et 17h. Pourtant, lorsqu'il ne pleut pas assez, 60% de sa production a besoin de cette eau acheminée jusqu'à ses champs via 2 forages à proximité.
Vous voyez, l'eau va arriver ici, ça c'est la bouche d'irrigation. Voilà.
La pomme de terre est très sensible au manque d'eau car l'enracinement est peu profond. Avec la sécheresse, les rendements sont plus faibles. La pomme de terre est de moins bonne qualité, plus difforme et plus petite et ne correspondra plus au cahier des charges des industries agroalimentaires.
On a investi, on a acheté du plant, on a mis des fertilisants, on utilise des produits de protection des plantes pour avoir une récolte normale. Si on n'a pas cette récolte-là, le chiffre d'affaires n'est pas atteint et donc les conséquences économiques pour des pommes de terre qui sont contractualisées sont fortes, quoi. Et non compensées par le prix parce que les pommes de terre sont contractualisées.
Les agriculteurs signent en effet des contrats avec les industriels bien avant la récolte où ils font en fait une estimation de ce que pourrait donner leur production. L'inquiétude d'Alain est d'autant plus forte que l'année dernière, déjà, ses rendements ont diminué à cause de la sécheresse.
Il manque 300 tonnes dans le bâtiment. Logiquement, il aurait dû être plein. C'est la conséquence du mauvais rendement l'année dernière qui fait que ce bâtiment, il n'est pas plein. Voilà.
Alain de Kecker reproche à l'État un manque d'anticipation. Il faut, selon lui, mettre en place une vraie gestion de l'eau.
Pour moi, c'est un vrai sujet. Par exemple, ici, à quelques kilomètres, on a une sucrerie. Il y a peut-être des choses à réfléchir avec eux. Voilà, parce qu'eux utilisent beaucoup de l'eau pour leur process industriel. Cette eau est stockée, il y a certainement peut-être des choses à réfléchir.
Il existe en effet des solutions pour Jacques Blarel, responsable du service production végétale de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, mais il va falloir du temps.
Ça peut être de travailler sur des nouvelles solutions de stockage d'eau. Ensuite, il y a un travail qui va peut-être demander du temps, mais c'est peut-être aussi d'identifier des variétés qui soient un peu plus résistantes au stress hydrique. Après, il y a aussi un travail qui consiste à utiliser du matériel qui soit plus précis et peut-être un peu plus économe par rapport à l'utilisation de la ressource. Et puis des outils d'aide à la décision qui seraient capables également de préciser un peu mieux les périodes de déclenchement de l'irrigation pour essayer d'affiner aussi les apports en eau pour les cultures.
Les agriculteurs comme Alain de Kecker pointent aussi du doigt un arrêté sécheresse injuste car ils disent consommer moins de 4% de l'eau dans le département, ce que ne dément pas Eric Fils, le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer.
Il n'y a pas de raison de focaliser à l'excès sur la question de l'irrigation agricole, c'est effectivement pas le cœur du sujet. En revanche, personne ne comprendrait qu'on demande des mesures aux particuliers et qu'on continue à irriguer sans se poser de questions. Et donc, c'est normal aussi que l'irrigation prenne sa contribution à l'effort collectif. Mais je suis d'accord sur le fait que cette contribution doit être proportionnée.
Dans le Nord, ce sont donc les ménages qui consomment le plus d'eau, 80%, une population qu'il faut davantage sensibiliser, selon Éric Fils.
Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on puisse faire des avancées, si on veut vraiment avoir des progrès importants en termes de réduction de la consommation d'eau. Concrètement, ça pourrait être évidemment de lutter contre les fuites dans les réseaux. Il y a déjà des actions qui sont menées dans le département du Nord dans ce domaine. Le département du Nord n'est pas le plus mauvais dans ce registre, mais on peut encore faire mieux. On pourrait imaginer aussi, quand les réseaux sont conçus pour ça, qu'on puisse, par exemple, en période de pénurie, faire baisser la pression dans le réseau d'eau, de façon à amener naturellement les consommateurs à consommer moins. Aujourd'hui, y compris en période de restriction, on n'observe pas de baisse de la consommation des ménages, voire des fois des hausses. Voilà, il y a encore un effort de conviction, de persuasion, d'appropriation de l'enjeu qui est encore en partie devant nous.
L'alerte sécheresse actuelle court jusqu'à la fin du mois et pourrait bien être renouvelée.
À l'est de l'Europe, plus habitués aux tempêtes de neige, on s'inquiète également des vagues de chaleur qui affluent sur leur territoire, d'autant qu'aucune mesure efficace n'a été prise par les autorités, comme en République tchèque. Le pays manque d'eau. Alexis Rosenzweig nous appelle de Prague.
C'est à l'est du pays, dans la région de Moravie, que le constat est le plus flagrant. Dans le sud de cette région, près des frontières slovaques et autrichiennes, certains endroits commencent à ressembler à la Jordanie, selon les propres mots d'un expert tchèque en hydrochimie. Assez désespéré par le manque de cohérence des initiatives lentement prises par les autorités pour endiguer les problèmes liés au manque d'eau. En Moravie comme à Prague, ce sont les inondations qui ont été une préoccupation majeure ces deux dernières décennies, mais le changement du paysage et certains signes alarmants ont récemment fait prendre conscience des conséquences de la sécheresse, avec notamment des conséquences sur la traditionnelle culture du houblon et surtout la baisse constante du niveau des nappes phréatiques depuis plusieurs années, selon l'Institut tchèque d'hydrométéorologie, qui rappelle cependant que le pays a déjà connu des épisodes comparables de sécheresse dans les années 90. Cela met en tout cas de l'eau au moulin des manifestants qui ont encore protesté le week-end dernier contre le Premier ministre tchèque. Il faut dire qu'en plus de ces conflits d'intérêts et autres démêlés judiciaires, Andrej Babiš est une cible de choix en tant que fondateur du plus gros groupe agrochimique du pays et en tant que chef d'un gouvernement qui se targue d'avoir fait échouer le récent accord sur la neutralité carbone de l'Europe en 2050. Pourquoi s'occuper maintenant de ce qui va se passer dans 31 ans ? La question posée par Andrej Babiš avant le dernier sommet européen fait désormais partie de ses plus célèbres punchlines.
Le manque d'eau et des zones qui se désertifient, c'est ce que connaît également la grande moitié sud de l'Espagne. Cela concerne l'Andalousie, Murcia ou l'Extrémadure. L'eau y est devenue une denrée rare et précieuse et les agriculteurs en sont les premières victimes. François Musso.
En Andalousie, il y a deux grands syndicats agricoles qui depuis des décennies sont des frères ennemis, s'opposant tout. Cela en est même devenu l'objet de plaisanteries. Ce sont l'UPA et la COAG. Et bien ce printemps, ces deux institutions si importantes dans la région, où la principale richesse est l'agriculture, sont tombées d'accord sur un point. Le changement climatique est un phénomène indéniable et ses conséquences dans la région sont telles que cela doit devenir une priorité politique absolue, pour les citer littéralement. Ces dernières années, la faiblesse des pluies se faisait de plus en plus évidente, mais depuis l'automne, à part quelques ondées isolées en hiver, il est à peine tombé des gouttes d'eau. Résultat, de Malaga à Cordoue, de Jaén à Huelva, une pluviométrie de 75% inférieure à l'an dernier, des températures 13% supérieures à la moyenne des maximales de ces dernières années, des réserves d'eau qui baissent de façon menaçante. Les agriculteurs grondent, soutenus donc par l'UPA et la COAG. Cette année, la récolte des céréales est la plus désastreuse depuis longtemps et il faut remonter aux sécheresses de 1995 et celle de 1979 pour retrouver des immensités de plaines jaunies par du blé et de l'avoine qui ne sont pas utilisables. On parle de 25% de pertes depuis ce printemps. Un représentant du monde agricole, Baldomero Bellido, lance un cri d'alarme. Il faut de toute urgence améliorer les infrastructures hydrauliques afin de ne plus perdre l'eau d'irrigation. Lui et d'autres leaders réclament aussi un transvasement des eaux de fleuves du Nord, comme l'Ebre, vers les bassins quasi désertiques de Murcie et d'Andalousie. La situation est si dramatique, insistent toutes les formations politiques, que la plupart des jeunes ne voient aucun avenir dans l'agriculture et affluent de plus en plus vers les villes. Face aux ravages de la désertification, le gouvernement régional n'a pour l'instant aucune réponse à apporter.
Avec l'été et la canicule, il faut craindre également le retour des incendies. On évoque toujours les feux de forêt au Portugal ou en Espagne, mais près de la Grèce, la petite Bulgarie a vu des milliers d'hectares partir en fumée, notamment dans les zones montagneuses. À Blagoevgrad, dans le sud-ouest du pays, où l'Office des forêts exploite des forêts de pins, un système de prévention à l'aide de caméras thermiques a été mis en place. Et c'est le reportage de Juliette Rangeval. Sous le ciel d'orage, au milieu des buissons d'églantiers, des acacias en fleurs, la montagne bulgare déroule un paysage de forêts et de champs jusqu'à la Macédoine du Nord, toute proche. Tout est vert, encore printanier. Difficile de croire que dans quelques semaines, tout aura jauni et pourrait s'embraser. Pourtant, Kyrio, qui travaille pour l'Office des forêts, on a vu des incendies.
J'ai affronté beaucoup d'incendies. À Kresna, il y a quelques années, c'était très sérieux, c'était l'enfer. C'est nous qui l'avons repéré depuis le centre d'observation. Et la deuxième journée, on était 1200 personnes sur place. C'était une région très difficile d'accès, en haute montagne, avec beaucoup de collines. Il a fallu beaucoup de monde pour maîtriser cet incendie. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est l'arrosage par hélicoptère.
Mais l'hélicoptère envoyé par l'armée de l'air ne fonctionne plus depuis l'incendie qui a ravagé 1500 hectares dans les gorges de Kresna en 2017. On parle de construire des pompes, mais en attendant, le plus efficace, c'est sans doute la prévention, des réunions d'information avec les habitants des villages pour essayer de les convaincre de ne plus pratiquer de brûlis dans les champs, des réunions dans les écoles et un système de surveillance en ville. À Blagoevgrad, les techniciens de l'Office des forêts peuvent observer ce qu'il se passe en montagne à 1000 mètres d'altitude grâce à un système de caméras installé sur des tours. C'est près de l'une de ces tours que nous conduit Roumen Gavrilov. Il est expert en prévention des incendies de forêt.
Ici, ce qu'on a, c'est une alimentation électrique hybride, puisqu'on est loin de toute source d'alimentation électrique. On doit faire notre propre électricité et on a sur la gauche l'éolienne, sur la droite les panneaux solaire. Quand on a un ciel couvert, on utilise l'éolienne pour avoir de l'électricité 24 heures sur 24. L'électricité alimente la caméra de sécurité, par exemple, pour observer les lieux. Et là, on a tous les modules informatiques dans ce boîtier que vous pouvez voir juste en face de la voiture.
Le système est très sensible et craint la foudre. L'entretien matériel coûte très cher. Système informatique, caméra thermique. Ces tours de métal hautes de 25 mètres embarquent beaucoup de technologies.
La tour est équipée d'une signalisation pour les avions aussi. Et il y a des capteurs météo pour l'humidité de l'air. Bref, tout pour avoir accès aux conditions du terrain. On continue. Si vous regardez tout autour de vous, vous pouvez voir ces forêts de conifères qui demandent beaucoup d'efforts. Ça prend entre 45 et 50 ans pour qu'une forêt comme celle-là puisse être exploitée. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience aussi. Il faut prévenir les incendies. Ces tours nous fournissent toutes les informations pour les maîtriser.
Et comme ces forêts de pins sont très rentables, l'Office des forêts est prêt à investir, explique Roumen Gavrilov.
L'entretien coûte 12 000 levas par an et par tour. Il faut diviser par 2 pour avoir le prix en euros. On a 9 tours, donc là il faut multiplier par 9 pour avoir le coût total de l'entretien. La construction coûte, elle, 170 000 euros par tour.
Soit un total de 54 000 euros pour l'entretien des 9 tours. Cela ne représente pas un coût très important, mais les municipalités, elles, ont du mal à y faire face. D'autant que le risque d'incendie varie beaucoup d'année en année, selon Roumen Gavrilov.
Heureusement pour nous, le système de surveillance est très rentable. On a construit les tours en 2015, en quelques mois. Depuis, on a réussi à prévenir 80% des incendies sur ce territoire. Après, il n'y a pas autant d'incendies tous les ans, ça dépend vraiment. Il y a eu un pic en 2007, en 2011-2012, il y a eu pas mal de départs de feu aussi, alors que l'année dernière, par exemple, on a eu très peu d'incendies. 70 au total. Quant à cette année, rien qu'en mars et en avril, on a déjà eu 88 départs de feu, donc il n'y a pas vraiment de règles.
L'autre sujet d'inquiétude de l'ingénieur, c'est la Macédoine du Nord, toute proche, à moins d'un kilomètre de là. Là, ce type de prévention n'existe pas et le feu se moque des frontières. Mis à part un pare-feu de 8 mètres de large, il y a très peu de moyens d'éviter les incendies transfrontaliers. Ève Minot nous a rejoint. Bonjour Ève.
Bonjour Catherine.
Alors la canicule s'est abattue donc sur toute l'Europe, ce n'est pas la première fois. Et Ève, cela risque bien de ne pas être la dernière. Alors quelles sont les conséquences à court, moyen et long terme de cette montée des températures? Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir l'enrayer? On fait le point avec vous.
Oui, jusqu'à 40 degrés, voire plus en journée et pas moins de 25 degrés la nuit, annoncé cette semaine. Du Royaume-Uni à l'Espagne, de la Grèce à la Belgique, jusqu'au Danemark, un air chaud remonte d'Afrique, plus précisément du Maghreb, et déclenche un épisode de canicule attendu toute la semaine en Europe, avec un pic de chaleur aujourd'hui ou demain selon les pays.
Et du côté des gouvernements, quelles sont les solutions alors qui sont mises en place?
Pour l'instant, à part les alertes orange, les communications coup de chaleur dans la presse et les dispositifs qui s'adressent aux personnes les plus vulnérables, notamment dans les hôpitaux, pas grand-chose n'est prévu du côté des gouvernements européens qui attendent, un peu fébriles, de voir à quelle sauce ils vont être mangés ou plutôt à quelle flamme ils vont être rôtis. Quelques initiatives sont prises tout de même au niveau des villes, notamment à Paris, par exemple l'ouverture des parcs, des piscines jusqu'à tard le soir, l'installation de fontaines à eau un peu partout dans la capitale ou de brumisateurs ou encore la distribution de gourdes aux sans-abri.
Alors voilà pour l'urgence, mais quelles pourraient être les conséquences d'un tel épisode caniculaire dans toute l'Europe ?
Alors elles sont redoutables et redoutées, hein, au-delà des risques sanitaires pour les populations qui concernent là à peu près tout le monde. Chaque pays a ses propres inquiétudes. En Allemagne, par exemple, les syndicats agricoles redoutent particulièrement la sécheresse qui arrive au pire moment de l'année puisqu'il n'y a pratiquement pas plu en mai et que le mois de juin est crucial avant les récoltes. C'est déjà, paraît-il, presque fichu pour les pommes de terre. Au Royaume-Uni, les orages violents inquiètent particulièrement les autorités. Et en France, tout le monde a encore en tête la gestion catastrophique de la canicule de 2003 qui, je le rappelle, avait fait 15 000 morts en une dizaine de jours. Et dans les pays du Nord, c'est le risque d'incendie de forêt qui fait trembler les autorités, tant ils ont déjà fait des ravages l'été dernier. Mais les animaux sont aussi en première ligne. Certains partent se réfugier dans des zones plus fraîches, d'autres au contraire débarquent comme certaines familles d'insectes avec leur lot de maladies.
Une chose est sûre, en tout cas, la climatisation n'est pas la solution.
Non, il faut bien se le dire, les climatiseurs pourraient même faire partie du problème. D'abord parce qu'ils consomment de l'énergie qu'il faut fabriquer. Et ensuite parce que pour fabriquer de l'air froid, ils rejettent à l'extérieur des appartements de l'air chaud. Si tous les appartements de Paris étaient équipés, par exemple, la température en ville pourrait encore monter de quelques degrés à un comble.
Malheureusement, ces vagues de chaleur devraient se multiplier dès 2021. Et elles pourraient devenir 2 à 3 fois plus nombreuses d'ici même le milieu du siècle.
Oui, vous en parliez dans l'émission, des solutions sont envisagées pour rafraîchir l'atmosphère à court et moyen terme. Surtout, une des solutions les plus évidentes serait de revégétaliser les grandes agglomérations où les pics de chaleur sont les plus insupportables car le béton emmagasine la chaleur. Autre solution en ville, arroser certaines rues tout simplement pour humidifier les sols et faire retomber les températures. Mais à long terme, c'est tout notre rapport à la terre qui est à remettre en question. Il faut stopper les déforestations, bannir les énergies fossiles, arrêter de bétonner les espaces verts, mettre fin aux industries les plus polluantes. Bref, ce n'est pas gagné.
Et selon les scénarios, le réchauffement pourrait atteindre 2 degrés à l'horizon 2071-2100, voire 4 degrés dans les cas les plus pessimistes.
Et c'est pour éviter le pire que 196 des États membres de l'ONU ont signé en 2015 les accords de Paris, censés contenir justement ce réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Cette augmentation aurait des conséquences en chaîne dévastatrices avec une multiplication des événements climatiques violents, des canicules bien sûr, des ouragans, des orages, des inondations et même des vagues de froid inattendues. À titre d'exemple, et en quittant un peu la perspective européenne, l'Inde fait par exemple face depuis plusieurs semaines à l'un des épisodes caniculaires les plus violents de son histoire. Il n'y a plus d'eau, des centaines de personnes meurent tous les jours. On a même vu des oiseaux tombés, des arbres morts d'épuisement. C'est dommage d'en arriver là pour enfin se dire qu'il faut agir dans l'urgence car l'avenir de notre planète se joue dans les 10 années qui viennent.
Voilà, en attendant Ève Minot, équipez-vous de votre petit brumisateur. Oui, pour le visage. Bon, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. A signaler le diaporama de Damien Vodinicharov sur la forêt bulgare, à retrouver sur notre site et sur Facebook.